Paul Landry.
11h47, on est de retour dans Trudeau Landry. Jérôme, je veux te parler de notre belle jeunesse. Et pas aborder l'aspect de la reprise des sports ou de la pandémie ou quoi que ce soit. Non, juste de façon générale, prendre un pas de recul et regarder ou comparer, évaluer les... moi, j'appellerais bien ça la disposition émotionnelle de nos jeunes. Je lisais, entre autres, Richard Martineau a fait référence à ça. Aujourd'hui, Joseph Facal aussi, par la bande, parle de nos jeunes, de la liberté d'expression dans les universités. Et ça me ramène, dans le fond, à une chronique qui a été publiée hier par l'excellente, je le dis là, vraiment, l'excellente Isabelle Haché dans la Presse Plus. Je trouve qu'elle fait un travail incroyable là-dessus sur toute le concept de liberté d'expression dans les universités, les enseignantes, les enseignants qui ont peur de s'exprimer. Et si je fais juste mettre la table à où je m'en vais, à quel aspect je vais aborder, elle rappelle que sa chronique du 29 janvier sur ce qui s'est passé à l'Université McGill a fait jaser pas mal. C'est une chargée de cours en littérature qui était accusée de racisme. Comme lecture obligatoire dans son cours de littérature, il y avait une œuvre qui s'appelle « Forestier et voyageur », un roman qui a été écrit en 1863. Et il y a quelque chose qui lui avait échappé, c'est qu'il y avait l'expression « travailler comme des N » dans le texte. Et il y a, dans le Zoom, il y a un étudiant qui a dit « mais c'est donc bien épouvantable ». Elle a voulu s'excuser et en s'excusant, elle a rementionné le mot en N. Ça a amené à une escalade de plaintes. Elle a dit que ça a été un des pires moments de sa vie parce qu'elle voyait sa carrière pratiquement là, s'effondre sous ses yeux. Les étudiants qui ont quitté le cours en direct. Bref, elle l'a pas eu facile. Elle a été mollement protégée par l'Université McGill. Mais
ça, il est là le problème.
C'est ça. Ouais. Mais Isabelle Haché a décidé d'aller plus loin dans cette histoire-là parce qu'il y a des gens qui ont dit « non, mais vous comprenez pas, là ». Il y a des gens, des élèves qui ont vraiment été traumatisés par ce qui s'est dit dans cette classe-là. Puis elle a parlé avec un élève qui dit, moi, mon ami, et elle était là, là. Je lui ai parlé après, et pour vrai, elle était en larmes. Elle était affectée, elle était traumatisée, elle avait subi une micro-agression. Et là, Isabelle Haché, et c'est là que je voulais en venir, s'est entretenue avec, puis je trouve ça intéressant parce que on a des hypothèses sur est-ce que les jeunes sont différents d'avant, là, tu sais, il y a certaines époques. Mais lui, c'est un professionnel, tu sais, c'est un spécialiste, un anthropologue qui est professeur au département de psychiatrie de cette université-là, l'université McGill, Samuel Vessière, qui s'appelle. Et lui, premièrement, il dit que c'est assez particulier que ce soit rendu qu'on associe des traumatismes avec des mots. C'est-à-dire que normalement, un traumatisme, c'est quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as vécu. Il dit que juste la notion de traumatisme en lien avec des mots nous amène à penser que les étudiants, là, je le cite, sont plus fragiles et souffrent beaucoup plus de troubles de santé mentale. Et il dit la culture de la censure, des safe space, de la surprotection, c'est loin de protéger les étudiants contre les micro-agressions, mais plutôt ça nuit gravement à leur santé mentale. Il parle entre autres de la culture, de la génération des enfants rois, des parents qui protègent et surprotègent leurs enfants. Et sais-tu quoi? Je trouve que ce professeur-là qui a dû manger un char de bêtises de plusieurs de ses collègues hier, mais peut-être le doigt sur quelque chose. Est-ce que c'est normal qu'on remette en question l'usage de certains mots, certaines expressions, qu'on veuille être plus moderne, plus contemporain? J'ai aucun problème avec ça, je pense que c'est souhaitable. Mais là, la culture de la micro-agression, du traumatisme lié à la lecture d'un mot qui s'inscrit dans une œuvre qui doit être prise dans son contexte historique, etc., etc., et que ça amène des traumatismes.
Ouais,
traumatisme, faut peut-être se questionner,
là. On va demander à un psychiatre sur le traumatisme. Mais moi, je l'ai vécu cet été. Tu sais, je te dirai pas tous les détails, mais j'ai eu une discussion à un moment donné avec une jeune femme dans la vingtaine cet été autour d'une table. Et c'est devenu très, 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 très émotif. Au point où j'ai senti que la jeune femme en question était, même les larmes ont coulé. Oui. À cause de mon opinion. Pas parce que je m'en prenais à elle. À cause d'une opinion que j'émettais sur une situation X qui n'était pas notre situation, nous autres. Elle n'était pas concernée directement.
Okay.
Mais se sentait concernée parce que sa génération est concernée par une discussion. Je pense que c'était une discussion qui tournait justement autour de ça sur le racisme. Fait que ça, c'est du concret. Mais je pense que je te l'ai raconté, ou je sais pas si c'est en ondes ou en dehors des ondes, mais je connais quelqu'un qui m'a raconté qu'il y a un prof dans une université. Encore là, je donnerai pas trop de détails, mais dans les dernières semaines, il a commencé la session. Première chose qu'il a dit en commençant la session, c'est ici, là, puis il était devant les étudiants, des cours en ligne, remarque, là. Mais première chose qu'il a dit, c'est ici, le mot en haine, vous avez le droit de le prononcer et j'ai le droit de le prononcer aussi. Il a commencé son cours comme ça. Puis la réalité, Joe, c'est que tu as touché le point tantôt, là, c'est que les universités ne défendent pas leurs profs là-dedans. Parce que les conventions collectives protègent entre autres ça, là, le droit, bon, c'est pas nécessairement la liberté d'expression, plus comme le droit d'enseigner, là, je sais pas les termes exacts, mais les universités doivent défendre leurs profs, parce que la réalité, là, c'est que si un prof décide d'enseigner et de faire référence au mot en haine dans un contexte historique, de faire référence à ça dans un livre d'une pièce de théâtre, là, si l'étudiant a un problème avec ça, ben l'étudiant n'a qu'à quitter et puis à aller pleurer chez lui, puis l'enseignant devrait pouvoir donner son
Gérez-vous.
Cours.
Gérez-vous!
Gérez-vous! Puis l'enseignant devrait pouvoir donner son cours sans être atteint par ça. Mais si les universités ne défendent pas ces profs-là, on est dans le trouble un peu. Là.
Absolument, mais oui. le point que je voulais aborder, c'est que c'est-tu normal que... Parce que si tu parles de... Tu fais référence à une conversation que tu as eue cet été, où si on prend des réactions que des jeunes vont avoir eues à l'œuvre présentée par l'enseignante, par la professeure, je doute même pas de l'authenticité de leurs sentiments.
Non, pas, c'est ça, il n'y a pas de...
C'est
pas
vrai, fakey, c'est mais vrai. C'est-tu normal? Et moi, c'est que ça me ramène à ma responsabilité parentale.
Oui.
C'est comment tu fais comprendre à tes jeunes, à tes enfants, qu'il y a des choses qui sont pas évidentes dans le monde, que notre histoire est absolument pas toujours rose, au contraire,
exact,
il y a des aspects
exact.
Atroces, mais que tu sois capable aussi d'avancer dans la vie, là, de faire face à ces
oui,
trucs-là.
Mais Jonathan, écoute, c'est de valeur, on manque de temps, puis c'est un sujet qui est très complexe, puis on devrait peut-être à un moment donné inviter un spécialiste, quoi, que ça pourrait peut-être être lourd un peu, mais moi, j'ai remarqué une chose chez les jeunes dans la vingtaine, là, c'est que pour eux autres, le concept de liberté d'expression, là, je pense qu'il est moins important que pour nous autres. Moi, j'ai grandi, OK, à voir, à écouter les bulletins de nouvelles avec le communisme en Union soviétique, avec le rideau de fer. Je me souviens d'avoir vu le mur de Berlin tomber dans les bulletins d'information. Moi, je me souviens encore de la journée quand on a annoncé ça. Bernard de Rome, le téléjournal, le mur de Berlin qui tombe. Le rideau de fer qui tombe, qui s'effondre complètement. Les jeunes dans la vingtaine, ils n'ont pas vécu ça. Ils n'ont pas été élevés là-dedans, la privation de liberté d'expression.
La suppression de la pensée.
De la
ils
pensée.
Ils ne savent pas c'est quoi.
Puis là, ils arrivent aujourd'hui, puis il y a des débats, puis on dirait qu'ils ne réalisent pas jusqu'à quel point c'est fragile, ça, la liberté d'expression, la liberté de t'exprimer, jusqu'à quel point ça peut être facile de sombrer dans la censure. Puis j'essaie de comprendre ça. Pourquoi? Puis je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Nous autres, notre génération, là, on a vu c'était quoi des pays, l'Allemagne de l'Est, l'Union soviétique, des pays d'Europe de l'Est qui étaient privés de liberté, point. Puis ça incluait la privation de liberté d'expression. Donc, eux autres, cette nouvelle génération-là, qui n'a pas grandi là-dedans, Joe, on dirait qu'eux autres, c'est comme une notion qui n'est pas... Moi, je suis hyper attaché à ça.
Ouais.
J'en fais quasiment une obsession, j'en fais quasiment une fixation là-dessus. Mais eux autres, en jasant avec eux, je m'aperçois que quand je leur parle de ça, pas plus que ça, là, tu sais, puis... Je pense que ça teinte un peu leur attitude aussi, là.
Ouais, exact. Et il nous reste 30 secondes. On reviendra à ce débat-là, mais juste vous mentionner que les étudiantes qui avaient fait des plaintes contre cette enseignante-là avaient demandé à être évaluées sur une autre œuvre que ce livre-là, ce qui a été fait. Elles ont abandonné le cours après. Donc, elles ont été remboursées. Mais on a dit, ouais, mais attends, on avait fait un examen, là, dans toute la session. Donc, l'université a dit, OK, on va vous donner vos crédits. Donc, ils ont eu des crédits gratos, en plus.
Belle leçon de vie.
On est rendu là.
Au 93. Vous écoutez Trudeau Landry.
Juste pour finir, boucler la boucle sur le sujet que tu amenais avant la pause, Joe, sur l'article d'Isabelle Haché, puis l'Université McGill, puis l'utilisation du mot en haine.
Oui.
Ça se passe dans le milieu universitaire. Puis c'est correct, il faut en parler. Je pense qu'il y a un débat intéressant là-dedans. Mais je trouve que Richard Martineau, ce matin, dans le Journal de Québec, il nous ramène ça sur le plancher des vaches. Et je lisais Richard ce matin, puis je suis pas toujours d'accord avec lui, évidemment. Mais ce matin, je lisais Richard, puis je me dis, Colin, c'est une même que je me sens. J'aurais pu écrire cet article-là. Il parle du fait que on puisse se sentir mal quand on rencontre quelqu'un qui a un accent étranger.
Mm-hmm.
Ou que, bon, visuellement, on a l'impression que la personne n'est pas nécessairement née au Québec. On est comme gêné de demander à la personne, « Hey, de où tu viens, toi? » Je me sens de même des fois. Moi, je suis gêné des fois. Alors que... Moi, je vois rien de raciste là-dedans. C'est juste de la curiosité. Moi, si j'entends... si je discute avec quelqu'un qui a un accent étranger, c'est sûr que des fois, on peut peut-être le deviner, mais des fois, je me retiens de poser la question à savoir d'où tu viens.
Ah oui.
Par crainte de me faire dire, hey, t'es donc bien.
Ben moi, de dire.
Intrusif,
t'es, toi. Par curiosité, t'es originaire
ouais.
de où?
Ouais.
Tu sais, il n'y a rien de. Tu sais, parce que des fois, c'est les parents. Des fois, la personne va dire, ah, oh, je suis né au Québec, mais mes parents sont ouais. D'origine algérienne. Ou,
ben, t'es, oui, t'as
c'est
raison.
C'est une question qui se pose comme moi, on peut me demander, tu viens d'où, que tu peux demander à quelqu'un.
Mais toi, on sait que tu viens de Laval. Si on le voit tout de suite, tu
ben, c'est ça. Mais avant, ça paraissait, parce que je suis arrivé ici en disant party, poteau.
Le garage, ça, là, ça la bataille. Non, c'est ça, ça paraît plus. Mais sincèrement, t'as raison, parce qu'on devrait pas être gêné de ça. Mais des fois, on sent. À cause du courant de rectitude politique, une espèce de petite gêne. Moi, je la sens, en tout cas, des fois, avant d'aborder la question de où tu viens? T'es originaire de où? Pourquoi? Parce que ça m'intéresse. J'aime ça que les gens qui sont pas nés au Québec, qui ont un vécu ailleurs, racontent ça un peu, me parlent de ça. Ça m'intéresse. T'sais, j'ai une curiosité par rapport à ça.
Il y a quelqu'un au 25226 qui nous dit, pourquoi vous insistez tant pour avoir le droit de dire le mot en haine? Premièrement, on n'insiste pas pour nous avoir le droit de le dire. On insiste pour que si ça fait partie d'une œuvre ou d'un événement historique ou d'un contexte socio-culturel pour comprendre le passé, que les profs aient le droit de le dire. C'est juste ça, là. Si on dit, si les peut-être ça va être boiteux, puis encore une fois, on marche super sur des œufs, mais bon, c'est ça, le forum est là pour ça, pour qu'on s'exprime. Si les Juifs nous arrivaient et nous disaient « le mot nazi, ça nous heurte », on ne veut plus jamais que vous disiez ce mot-là. Comment on ferait pour expliquer
qu'est-ce
qui est arrivé pendant la Deuxième
Guerre mondiale? Le national-socialisme, c'est ça.
Exactement. Je comprends je comprends l'intention derrière les réactions à ce mot-là. Puis, comme je vous dis, je ne marche pas dans les rues à Beauport en l'utilisant. Là.
J'accepte totalement, ouais. Je reconnais totalement que c'est un mot qui est chargé émotivement, historiquement. Oui.
Il faut pas s'en servir à tort et à travers.
Tu sais, je me souviens d'avoir entendu mon ancienne collègue à la radio, Vanessa Destiné, en parler à Radio-Canada, un témoignage super éloquent, qui disait, vous autres, tu sais, vous savez pas c'est quoi la crainte, la conscience de risquer de se faire traiter de ce mot-là à tous les jours.
Ouais.
Tu sais, tu dépasses quelqu'un dans le trafic, il va te garrocher cette insulte-là. Et c'est vrai que nous, on n'a pas cette charge-là. Par contre, le point, c'est que ça veut pas dire qu'il faut effacer le passé. Il faut l'expliquer. Ça. Là, on est dans le révisionnisme.
Ne serait-ce que pour dénoncer le passé, des fois. Là.
C'est ça.
Pour dénoncer ce qui se faisait. Là.
Écoute, il y a un auditeur qui m'a choqué un peu en disant, dans le fond, vous acceptez de quelqu'un qui se fasse traiter de ce nom-là.
Pas du tout.
Puis que,
au contraire.
Si t'es pas content, rentre à la maison. Voyons, c'est pas ça qu'on a dit du tout.
Pas en tout.
Moi,
pas
le
tout,
point
pas
que j'abordais, tout. C'était, est-ce que c'est normal que de jeunes universitaires en soient rendus à lire un mot dans une œuvre qui date de la fin du 19e siècle et qu'ils en pleurent parce qu'ils se sentent agressés.
C'est un traumatisme.
C'est ça, la
fin. Tu parles de traumatisme.
Ouais.
Est-ce que c'est normal? Je pense qu'à tout le moins, il faut se poser la question comme le prof d'anthropologie de l'Université McGill le faisait.
C'est ça, parce que moi, je comprends la crainte de quelqu'un d'être insulté par l'utilisation d'un mot. Je le comprends très bien. Savez-vous quoi? Aux États-Unis aussi, là, moi, je comprends pourquoi les joueurs de la NBA portent des chandails Black Lives Matter. Je le comprends très bien. Et je peux comprendre la colère des Afro-Américains aux États-Unis avec ce qu'ils vivent depuis des siècles aux États-Unis, OK? Je comprends très bien tout ça. Par contre, je pense qu'un enseignant, un prof à l'université, doit pouvoir faire référence à des œuvres littéraires où le mot en haine est inscrit, puis pouvoir donner le contexte sans que personne parte à pleurer, puis soit offusqué. Puis moi, je pense que la personne qui est terriblement offusquée au point de pleurer, puis d'être traumatisée, il y a peut-être un examen de conscience à faire. Faut que tu puisses référer à ça sans créer un scandale. Il y a là le débat dans les milieux universitaires sur l'utilisation de ce mot-là.
Et combien je comprends que c'est deux questions, deux contextes différents, mais combien de gens qui s'offusquent à l'université fredonnent des chansons où on le dit au
ouais, mots, c'est ou... ça, dans certaines chansons rap.
C'est ça. Deux exemples je veux vous donner des dernières heures. HBO Max a décidé de mettre un avertissement devant les épisodes des Muppets. Des vieux épisodes
Muppets Show?
Il va y avoir un avertissement disant aux gens, ceci a été créé dans le passé. Ça se peut que ça reflète pas les préoccupations de 2020.
Comme RBO sur Crave.
Of course! si ça a été créé avant toi, ça se peut que ça reflète pas tes préoccupations. On est obligé de l'indiquer comme le, ben attention, le café est chaud.
Mais je sais pas si t'as regardé les archives de RBO sur Crave, mais avant chaque épisode, il y a cet avertissement-là aussi, comme quoi ça a été fait à une autre époque. Ça reflète pas les valeurs d'aujourd'hui. Là.
Et
c'est,
aujourd'hui,
c'est comme ça maintenant. Là.
On apprend, puis je vous dis pas que c'est une mauvaise décision ou que ça n'a pas d'allure, mais on apprend aujourd'hui que dans Les Simpsons, le Dr. Hibbert, qui est un personnage noir, dont la voix était faite par un comédien blanc, mm-hmm. Harry Shearer, à partir de maintenant, il est remplacé par un comédien noir. Après quoi, 30 saisons, 32 saisons, je pense, des Simpsons, parce que c'est plus acceptable que, même en dessin animé, qu'un blanc fasse une voix d'autre ethnie que la sienne.
Par contre, c'est normal qu'on évolue sur cette question.
Oui, absolument.
C'est ça, c'est normal, mais on peut pas refaire le passé non plus. Il est là le piège.